Chapitre 41. Atticus avait refusé qu'on le ramène chez lui. Dès sa descente de l'hélicoptère, il avait appelé un taxi. Tout plutôt que de rester une seconde de plus enfermé entre les griffes d'Eneka et de ses sbires. Edwin Kowalski avait été clair avec lui. Il n'avait même pas nié les crimes. Tout ce qu'il voulait, en convoquant Atticus, c'était lui faire passer le message qu'il n'était qu'un vulgaire petit flic et qu'il devait rester à sa place, laisser les cerveaux gérer ce qui était important. Il n'était qu'un pion minuscule qui osait sortir de son rôle et qu'il fallait recadrer. Kowalski était si détaché qu'il donnait l'impression de ne pas être humain. Avoir accordé un entretien personnel semblait déjà une preuve formidable de son infinie générosité. Atticus enrageait. « Sa Majesté a daigné se rabaisser à mon niveau. Elle est trop bonne. » Le message avait été bien reçu. La réponse d'Atticus serait tranchante. Eneka n'avait pas hésité à assassiner Oscar Orioto, Huxley ou Copelson, ni à menacer directement Hack et sa famille. Si Atticus n'avait pas subi le même sort, c'était forcément parce qu'il se méfiait de lui. Il en était conscient. Se faire projeter à plusieurs centaines de kilomètres au milieu du domaine privé d'Edwin Kowalski prouvait qu'il le prenait très au sérieux. Et Atticus ne voyait qu'une raison à cela. Ses menaces de tout balancer à la presse lors de sa conversation avec le chef de la police. Eneka ignorait comment, mais Atticus avait couvert ses arrières. Et tant qu'ils ignoreraient de quelle manière exactement, ils ne prendraient pas le risque de le supprimer. Pas tant qu'ils n'auraient pas connaissance du pacte qui le liait à un journaliste, ni de l'identité de celui-ci. « Ils pensent que j'ai laissé un dossier avec instruction de tout publier si je disparais. Sans quoi je serais déjà mort. » À l'instant où il réaliserait que ce n'était pas le cas, puisqu'il ne pouvait faire pression sur lui, l'acheter ou l'intimider, alors il serait mis hors circuit. Atticus ne se faisait aucune illusion. Le temps lui était compté. Le taxi le déposa en tout début de soirée à Hollywood Station. Le poste était agité. Nombreuses interpellations, des vols, des agressions, plusieurs deals de dope en flagrant délit. Le couloir principal fourmillait d'officiers en uniforme et de leurs prises qui beuglaient. Atticus poussa la porte du hall des détectives, bien plus calme à cette heure. Il se rendit compte que ces derniers temps, il n'y venait plus qu'en décalé, et appréciait assez cette tranquillité apparente. Il vit la lumière dans le bureau du lieutenant, ce qui signifiait que celui-ci était encore dans les locaux, quelque part. Il le trouva à l'étage en pleine discussion avec le capitaine. Les deux hommes scrutèrent Atticus avec le même regard étrange où dominait l'agacement, nuancé toutefois d'une pointe d'admiration. « Où en est la cellule de crise ?» fit l'inspecteur sans se soucier de raconter sa petite visite de l'après-midi au milliardaire. « Ça avance, » répliqua le capitaine laconique. « Rentrez chez vous, Gore. On vous préviendra lorsqu'on aura du nouveau. » « Hors de question, capitaine. » S'il faut coordonner les opérations, je veux la ferme, Gore. Le coupa sèchement son supérieur. Vous n'êtes pas qualifié pour coordonner quoi que ce soit, et si vous n'aviez pas fait votre manège au chef, vous ne seriez même plus sur l'enquête. Le ton avait changé du tout au tout depuis qu'Atticus avait menacé le chef de la police de tout révéler à la presse s'il était écarté. Il ignorait si Schaeffer l'avait réellement pris en grippe pour insubordination, ou s'il était seulement là et cherchait à se couvrir en maintenant son inspecteur à l'écart. Petrozza soupira et tenta d'adoucir la situation. Vous n'aimez peut-être pas la RHD, mais ils ont l'habitude. Ils savent comment faire et prendront les bonnes décisions. Je veux être présent à leur réunion, insista Atticus. Le géant haussa les sourcils derrière ses lunettes en écaille, mais ce fut le capitaine qui répondit. Appelez-les et démerdez-vous avec eux. Les choses allaient donc se passer comme ça. Chacun pour soi. Atticus n'était officiellement pas écarté de l'enquête, mais à lui, le rookie, de parvenir à se faire une place parmi les vétérans. « Hack vous a prévenu qu'il prenait du recul ?» demanda Atticus. « Il prend ses distances avec vous, Gore, » corrigea le capitaine. « Et il a bien raison. » « Si c'est votre interprétation, capitaine. » Hack avait eu si peur pour sa famille qu'il était possible qu'il n'ait même pas dit la vérité à ses deux supérieurs. Atticus les salua et redescendit. Une fois dehors, dans la douceur de la nuit tombée et de l'infatigable rumeur urbaine, il composa le numéro de Connor Hogan, l'enquêteur de la RHD, à qui il avait déjà parlé dans le cadre du meurtre du comptable Deneka. Hogan, pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas perquisitionné la fondation? Chaque heure qui passe leur permet de faire un peu plus le ménage.
Bien sûr, Gore. Je vous propose de me rédiger un mémo sur le sujet, on le soumettra à la direction lors du prochain rassemblement.
Je ne plaisante pas. Faites passer le message que si demain matin on n'est pas chez Long Life Harmony, la presse ouvrira son prochain bulletin sur un scandale retentissant.
Du bluff, Gore. Rien qu'une grande gueule. Gêné dans vos rapports et il n'y a rien.
Parce que vous faites tout pour ne pas aller traquer les preuves à la Fondation et directement chez Eneka. La presse va adorer ce traitement de faveur de la part du LAPD. Atticus raccrocha. Tout ce qui comptait, c'était qu'Edwin Kowalski avait un doute sur ce bluff. Assez pour le convoquer et le laisser en vie. Hogan allait appeler le chef de la police en personne pour lui rapporter la conversation. Atticus hésita à rentrer chez lui. Il savait que son téléphone sonnerait tôt ou tard. Ses oreilles allaient siffler. Au moins maintenant, Kowalski savait que son discours n'avait pas eu l'effet escompté. S'il avait voulu remettre Atticus Gore à sa place, il s'y était pris de la pire manière qui soit. Atticus avait besoin de vie, de s'entourer de joie à défaut d'en ressentir. Il avait ses habitudes à West Hollywood, cependant ce n'était pas le moment. Les gays étaient à la mode dernièrement, et la société plus tolérante. Mais si le scandale éclatait dans la presse et Keneka contre-attaquait avec des photos d'Atticus et ses mœurs légères, l'opinion publique, aussi gay-friendly soit-elle de nos jours, n'apprécierait pas ce déballage de pratiques sexuelles décomplexées. L'ADN de la nation demeurait l'Amérique puritaine qui l'avait bâtie, et le moindre chahut réveillait ses vieux démons archaïques. Si Atticus devait incarner cette affaire, il ne pouvait se faire décrédibiliser. Il opta pour un bar sur Vine Street et attendit que la tempête lui tombe dessus. Qui allait-il lui envoyer? Le chef de la police ne se déplacerait pas. Jamais il ne prendrait le risque de se montrer avec Gore, au cas où ce dernier aurait planqué un journaliste pour voler des clichés. Il ne fallait pas qu'Atticus puisse étayer ses dires en cas d'explosion. Quant aux gars de la RHD, ils étaient bien trop présomptueux pour se rabaisser à venir lui faire la morale. Non, ce serait quelqu'un de son entourage direct. Et Hack refuserait de servir d'intermédiaire. Petrozza, s'il la jouait amical, bon conseil, ou le capitaine, si le choix de l'autorité était retenu. La dernière fois que tu as attendu que la guerre éclate, tu as poireauté toute la journée et il ne s'est strictement rien passé. Son portable sonna avant minuit. Hogan. Apparemment, la RHD avait plus de courage que ce qu'il avait cru.
Gore, on tape Long Life Harmony demain à l'aube.
Atticus fut trop surpris pour parler. Il n'avait pas envisagé cette réponse à sa provocation.
Vaudrait mieux qu'on n'en reparte pas bredouille,
ajouta Connor Hogan.
Sinon t'es fini.
Atticus se fit raccompagner chez lui peu après. Les phares du taxi qui manœuvraient pour faire demi-tour dans la rue étroite éclairaient encore l'escalier qui desservait l'entrée par le premier étage lorsque Atticus découvrit le cadeau. Une enveloppe marron glissait sous son paillasson. Il la saisit délicatement, s'attendant à sentir des douilles de balles à l'intérieur ou ce genre de menace explicite. Il n'y avait qu'un document, une liasse de papier. Il l'ouvrit et se tourna aussitôt pour vérifier qu'il n'y avait personne en contrebas. Lui qui se pensait cerné d'ennemis venait de se découvrir un ami.